même poste à 10h le matin, le mardi. On va parler d'Alan Watts sur la planète des sages.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Le mardi 3 novembre prochain à partir de 19h, Chiz 94.3 te propose une soirée spéciale élection américaine. Pendant plus de 5 heures en direct, nos animateurs, accompagnés de spécialistes internationaux, analyseront les résultats de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden. C'est ce mardi 3 novembre dès 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Le réseau, c'est 3,3 milliards de dollars investis et 19 000 nouveaux emplois. Pour notre région, c'est tout un moteur de relance économique. Le tramway et son réseau, on a toutes les raisons d'embarquer. Visitez jeanbarque.info pour plein d'autres raisons.
Le réseau, c'est 9 500 véhicules de moins dans le trafic chaque matin ou l'équivalent de libérer le volume des boulevards Laurier et Charest réunis. Le tramway et son réseau, c'est gagnant pour tous. Visitez jeanbarque.info. Un message de la Ville de Québec.
Bienvenue à Question de savoir, votre émission des deuxième et troisième cycles à l'Université Laval, présentée par Lali. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Je suis en compagnie de Claude Junior Charles, VP aux droits étudiants pour Lali. Bonjour Claude.
Bonjour Marie, bonjour Lydia. Alors, je suis Claude Junior Charles et vice-président aux droits étudiants de Lali. Comme à chaque année, donc Lali contribue dans la campagne sans oui, c'est non. Et c'est dans cette perspective que nous allons tenir cette émission sur Zoom aujourd'hui. Donc, nous aurons plusieurs intervenants avec nous. D'abord, nous allons avoir Lydia Arsenault qui interviendra bien sûr sur la thématique suivante, sans oui c'est non, prévention et enjeux dans le contexte des violences à caractère sexuel. Dans un deuxième temps, nous allons avoir avec nous Michel Doré, donc, qui interviendra sur les enjeux relatifs à la communauté LGBTQ2IA+, et les abus sexuels dans le contexte de sans oui c'est non. Et enfin, nous allons avoir les féministes en mouvement de l'Université Laval, donc la FEMUL, et comme intervenante, nous allons avoir Sarah Jane Vincent et Cyrine Abdallah, qui interviendront sur l'importance du consentement et les ressources disponibles à l'Université Laval dans le contexte de sans oui, c'est non. Donc déjà, je vous dis merci de suivre cette émission avec nous. Donc je passe la parole à Marie-Ève pour enchaîner.
Donc bonjour et bienvenue Lydia, coordonnatrice du CPI IMH et CIDVAC. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Donc un très beau panel que vous avez réuni aujourd'hui.
Merci.
Et puis, on peut tout de suite commencer avec la première question. Que sont les violences à caractère sexuel et pourquoi c'est important d'en parler sur notre campus universitaire?
Oui, bien en fait, quand on parle de violences à caractère sexuel, on parle de violences qui sont commises par le biais de pratiques sexuelles ou qui ciblent la sexualité ou encore des inconduites qui vont se manifester par des gestes, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle et qui ne sont non désirées par la ou les personnes vers qui elles sont destinées. Donc, ça peut également comprendre là, des violences qui sont relatives aux diversités sexuelles ou de genre et puis qui sont exprimées directement ou indirectement là, et ça peut inclure évidemment les moyens technologiques. Donc, on va donner là, tu sais, comme exemple de violences à caractère sexuel, entre autres les agressions sexuelles, le viol, le harcèlement sexuel, mais ça contient aussi beaucoup d'autres choses qu'on n'attribue pas nécessairement toujours à une violence à caractère sexuelle, comme par exemple des propos sexistes. L'attentat à la pudeur va peut-être résonner chez davantage des personnes plus âgées que chez les plus jeunes. On utilise un peu moins cette expression-là de nos jours. L'exposition sexualisée, ça peut être également la possession ou la transmission ou encore la production et distribution d'images sexuelles qui vont être dégradantes. On parle aussi de voyeurisme, d'exhibitionnisme, le frotteurisme et le cyberharcèlement et l'exploitation sexuelle. Donc, tout ça, ça rentre dans la grande famille des violences à caractère sexuel. C'est important d'en parler d'une part parce que ça touche beaucoup de situations qui peuvent être rencontrées par les individus et parfois, dans le fond, on peut avoir tendance à banaliser certains gestes comme une fesse frôlée dans l'autobus ou le fait justement de faire des blagues qui sont sexistes ou qui vont toucher le genre des personnes, notamment dans le respect de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Ben, c'est inclus aussi là, dans la définition qu'on se donne à l'Université Laval.
Entre propos sexistes, viol, voyeurisme, cyberharcèlement, donc se frôler, respect de la diversité, donc il est clair, quand on parle de ces trucs-là, il est important donc, d'en parler sur notre campus universitaire. Donc, la deuxième question, Lydia, que nous allons te poser, donc normalement, nous savons qu'il y a une formation obligatoire et disponible sur mon portail concernant les violences à caractère sexuel. Donc, nous savons que plusieurs éléments ont pu déclencher le besoin de faire cette formation-là. Mais ce que nous voulons savoir aujourd'hui, c'est quel est le contexte qui a mené à une telle formation et qui s'adresse et à qui s'adresse cette dernière.
C'est une question qui est extrêmement pertinente. Puis, je pense que de comprendre le contexte qui a mené l'Université Laval et d'autres universités également à développer une formation qui est obligatoire et qui traite des violences à caractère sexuel, c'est déjà un pas en avant, dans le fond, pour avoir envie de suivre cette formation-là. Donc, en 2016, il y a eu la publication des enquêtes SIMU, E-S-S-I-M-U, qui a démontré que dans plusieurs universités québécoises, il y avait un grand nombre d'étudiants et d'étudiantes qui avaient, au cours de leur parcours universitaire, été confrontés à des situations de violence à caractère sexuel, qu'elles aient été vécues par elles-mêmes ou qu'elles aient été en fait témoins de ces situations-là vécues par quelqu'un d'autre. Donc, à la suite de ça, la ministre David, qui était alors en charge en fait là, de tout ce qui fait les violences à caractère sexuel, a décidé de déposer un projet de loi qui a été adopté en 2017, donc la loi 22. Ce que dit cette loi-là, c'est que c'est une obligation pour les institutions d'enseignement supérieur, donc cégep et université, de se doter en fait d'une politique institutionnelle pour combattre les violences à caractère sexuel sur leur campus et également obligation de former l'ensemble de leur communauté, que ce soit les étudiants comme les employés en fait de l'institution. Donc, à la suite de ça, ben il n'y avait pas un grand délai pour mettre en place. L'Université Laval a développé une formation présente en 3 temps, donc avec 3 scénarios. Un scénario qui présente une situation vécue entre 2 étudiants, un scénario qui présente une situation vécue entre un enseignant et un étudiant qui est dirigé par cet enseignant, et un 3e scénario qui présente une situation davantage entre 2 professionnels ou 2 employés de l'institut. Donc, ça touche un peu à tout le monde, puis ça permet de prendre conscience qu'il y a différentes réalités, en fait, là, qui touchent les violences à caractère sexuel et que c'est pas si clair que ça. Des fois, là, on peut tomber dans une zone grise, puis avec différents degrés de gris, je dirais même, pour ce qui est des violences à caractère sexuel, parce que c'est pas toujours aussi explicite ou évident que quelqu'un qui va avoir touché des parties intimes de quelqu'un d'autre ou d'avoir clairement commis une agression sexuelle. Comme le disait la définition un peu plus tôt, ça touche un paquet de situations, les violences à caractère sexuel. Puis, ce que disait également la loi 22, c'était l'obligation pour toute institution d'avoir en fait un service, un point de chute unique pour accueillir les victimes de violences à caractère sexuel, pour faciliter là, les démarches qu'elles avaient à faire pour dénoncer ou obtenir du soutien là, en cas de agressions sexuelles ou de violence à caractère sexuel en tout genre. Donc, c'est ce qui a mené à la création de la formation.
Et dans la mesure du possible, de souligner donc, la loi 22 donc, qui a été adoptée par le gouvernement donc, et qui fait obligation aux établissements scolaires de prendre un ensemble de mesures pour lutter contre les vaccins. Mais où en est-on maintenant? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a progressé? Ou du moins, est-ce que rien n'a été fait?
Non, en fait, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Notamment, je vais parler pour l'Université Laval parce que bon, on n'est pas responsable au CPIMH CIDVAC, en fait, de ce qui se passe dans les autres universités, bien qu'on collabore avec celle-ci pour se tenir à jour, s'entraider, se questionner un peu ensemble sur les manières d'inciter les gens dans une perspective volontaire de compléter la formation. Donc, il y a eu une première année de présentation de la formation l'année dernière. En tout, pour la communauté universitaire, il y a 42% de l'ensemble de la communauté qui l'a complété. Les étudiants, on était un peu en haut de 50%. Et les employés, ça montait plus haut que ça. C'est quand même une belle réussite considérant que la formation est obligatoire, mais on ne souhaitait pas à l'Université Laval mettre des moyens de coercion parce qu'on considère que ça freine un apprentissage qui va être positif, en fait. On préfère compter sur la collaboration des étudiants, entre autres, pour qu'ils puissent le faire de bonne foi et qu'ils se sentent, dans le fond, responsables aussi de se questionner et d'en apprendre davantage sur les violences à caractère sexuel. Donc, les différentes études en sexologie et en travail social démontrent que c'est toujours préférable d'avoir une adhésion volontaire. Donc, cette année, on a mis l'accent au départ sur les nouveaux inscrits à l'université et par la suite, on va mettre nos efforts vers l'ensemble de la communauté pour trouver des moyens, en fait, de rejoindre les étudiants et les aidantes, de même que les employés qui n'auraient toujours pas complété leur formation lors de l'année scolaire 2019-2020.
On parle du CIDVAC, on parle du CPIMH. Quel serait leur rôle à l'Université Laval et en lien avec la campagne Sans Vous Sinon? Est-ce qu'on peut tout de même, pour le bénéfice de nos auditeurs, dire qu'est-ce que c'est le CPIMH et le CIDVAC?
Bien, certainement. Puis, commençons par décortiquer les acronymes. Donc, un acronyme, parfois, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement, le CPIMH, il existe depuis plusieurs années, puis il traitait, avant l'arrivée de la loi 22, de toutes les situations de harcèlement qui étaient signalées à l'Université Laval, que le harcèlement vécu ou signalé soit de nature psychologique ou à caractère sexuel. Donc, depuis novembre 2018, le Centre d'intervention et de prévention des violences à caractère sexuel, donc cette fois-ci le CIDVAC, a pris en charge là, toutes les portions de services qui concernent spécifiquement les violences à caractère sexuel. Donc, l'objectif premier là, des deux services est sensiblement le même, c'est de faire cesser toute situation de harcèlement qui est rapportée sur le campus afin de prévenir l'apparition de telles situations. Puis, en faisant la sensibilisation auprès de l'ensemble de la communauté universitaire concernant le harcèlement psychologique et le harcèlement à caractère sexuel. Donc, les services offerts par les deux centres sont également similaires. Ils vont de l'accompagnement dans le règlement des situations à des choses beaucoup plus corsées, je dirais. Donc, l'accompagnement peut se faire de différentes façons, en fonction là, toujours des attentes de la personne qui requiert les services du CPIMH ou du CIDVAC. On peut, par exemple, suggérer des approches ou des moyens qui vont habiliter les victimes de harcèlement à établir ou communiquer leurs limites et besoins afin de faire cesser la situation conflictuelle par elle-même. Donc, ça peut permettre, là, dans le fond, de se sentir en contrôle de la situation et de reprendre un peu là, le sens des événements puis le contrôle sur ceux. On peut aussi, à ce stade-là, dans le fond, référer la personne qui va faire appel au service du CIDVAC ou du CPIMH vers d'autres ressources là, du campus. Ça peut être, par exemple, si la personne a besoin de soutien au plan psychologique, dans le fond, de l'orienter vers le centre d'aide aux étudiants ou vers, par exemple, une personne en situation d'autorité dans sa faculté, dans sa direction de programme ou sa direction de département pour recevoir de l'appui pour le règlement de la situation ou encore vers son association étudiante parce que tout dépendamment, dans le fond, des cas rencontrés, les associations étudiantes peuvent également être dans le bon coup. Donc, Claude saura nous dire. Donc, le CPIMH puis le CIDVAC, ils sont également responsables de recevoir les signalements de harcèlement, que ce soit un signalement qui va être fait par une personne qui est témoin de la situation ou par la victime elle-même, puis de recevoir également toute plainte officielle pour ensuite la transmettre vers un des vice-rectorats qui va être approprié pour traiter la plainte ou le signalement déposé. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas le CPIMH ni le CIDVAC qui traitent les plaintes de harcèlement déposées. C'est des personnes, en fait, qui sont spécialement habilitées à le faire. Donc, nous, on reste un service neutre. Et pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est parce que les services du CIDVAC s'adressent également aux personnes qui sont mises en cause ou qui auraient conscience d'avoir commis des gestes ou lancé des paroles à nature sexuelle et qui voudraient un peu réparer cette situation-là ou savoir, dans le fond, comment développer leur connaissance pour que la situation ne se reproduise pas. Donc, on est là autant pour les victimes que pour les témoins, que pour les personnes mises en cause.
Merci, Lydia, pour ta brillante réponse. Alors, CIVAC et CPIMH, CIVAC, Centre d'intervention et de prévention des violences à caractère sexuel, le nom en dit long. Moi, j'ai déjà passé, donc... J'ai déjà fait la formation obligatoire sur la violence à caractère sexuel disponible sur mon portail l'année dernière. Donc, je sais que c'est dans l'optique de faire une campagne donc sans oui, c'est non. On a des autocollants sur les téléphones, il y a des affiches dans les tunnels, donc partout à l'université. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui, Lydia, ou du moins la communauté en général aimerait savoir, donc, en quoi consiste la campagne sans oui, c'est non et quel est son objectif?
Bien, merci, Claude. Tout d'abord, félicitations d'avoir fait ta formation. Ça fait de toi un leader sur la prévention et puis la sensibilisation des violences à caractère sexuel. Donc, la campagne sans oui, c'est non, c'est une campagne qui est à l'Université Laval depuis 2016. Donc, elle a pour but de sensibiliser la communauté universitaire aux problématiques des violences à caractère sexuel, à l'importance du consentement, puis de les outiller, chacune des personnes, en fait, à réagir adéquatement lorsqu'elles sont témoins de violences sexuelles, puis également de faire connaître les ressources médicales, légales et psychosociales qui sont disponibles pour les personnes victimes de VAP, comme on appelle dans le jargon du MIT. Donc, les différentes activités qui sont offertes depuis 2016, elles ont pour objectif de parler spécifiquement de la notion de consentement en le définissant. Puis, petit à petit, les activités ont ajouté, en fait, des notions, que ce soit de parler des situations qui peuvent être comprises comme une démonstration de consentement sexuel, mais qui n'en sont pas, ou qui empêchent qu'un ou une partenaire donne réellement son consentement. Donc, on peut parler là, de situations où une des deux personnes a consommé de l'alcool ou des drogues, d'être dans une situation d'autorité et de craindre les conséquences d'un refus. Donc, la formation obligatoire, là, aborde également ces situations-là. Donc, cette année, on souhaiterait davantage mettre l'accent sur des situations qui sont positives, qui montrent des rapprochements intimes, mais qui peuvent inspirer des pratiques respectueuses et également la communication entre les partenaires. Parce que la notion de consentement, c'est finalement une notion de communication. Donc, c'est un peu ce que fait et ce à quoi tend comme objectif la campagne sans oui, c'est non.
Avec le COVID, les activités de la campagne ont été un peu arrêtées. Est-ce que vous allez continuer de faire, par exemple, des activités pour témoins actifs ou pour... est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues, par exemple, dans les prochains mois?
Tout à fait. En fait, il y a différents défis qui se présentent hein, avec la COVID et tout ce qui est à distance. Donc, on a tenté, en fait, de reprendre les activités de l'année dernière pour les transformer vers des choses un peu plus en ligne. Donc, rejoindre les gens en situation de pandémie par rapport aux violences à caractère sexuel et notamment avec la formation obligatoire, ça peut sembler moins pertinent pour certains, mais ça l'est tout autant. Il y a déjà beaucoup de stress qu'on vit avec la situation de la COVID. Donc, l'enseignement à distance, c'est pas facile de passer nos journées devant un écran. Ça en demande davantage également avec les cours. Certains ont peut-être, dans le fond, le réflexe de moins dénoncer les violences à caractère sexuel qui sont vécues, notamment, dans le fond, les cyber-violences à caractère sexuel. Donc, il ne faut pas les tolérer davantage que si c'est une situation qui est en présentiel. Donc, on va essayer de développer un peu ce volet-là cette année dans nos appels avec la campagne. Il ne faut pas oublier également les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, en étant tout le monde ensemble à la maison, des fois, il y a une certaine distance peut-être naturelle qui peut être ressentie par un des deux partenaires. Et il faut respecter, dans le fond, ce besoin de distance personnelle-là et respecter le non-désir d'intimité. Donc, on va tenter de relever ce défi-là avec le SPAC et toute l'équipe de la campagne sans oui, c'est non. On va compter également sur la communauté étudiante. Lorsque vous avez fait votre formation, ben, n'hésitez pas, dans le fond, à donner vos commentaires positifs si vous l'avez apprécié à vos collègues et amis, puis à nous faire part également au SPAC de vos commentaires et les sujets, en fait, que vous souhaiteriez pas davantage développer cette année ou dans certaines situations. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre à info@tipvacs.ulaval.ca pour nous partager, dans le fond, vos inquiétudes ou les situations de violence à caractère sexuel que vous rencontrez.
Donc, merci beaucoup, Lydia. Merci beaucoup. Donc, ça a été une très belle émission. Donc, de bonnes réponses aux questions qui ont été posées. Donc, merci beaucoup. Donc, nous espérons très certainement que cela va contribuer réellement dans cette campagne qu'on est en train de mener.
Donc, conclut la partie sur la mise en contexte et la prévention des violences à caractère sexuel. On va s'en va en musique avec une pièce d'Émile Bilodeau qui s'appelle Métaphore et on vous revient avec notre entretien avec M. Michel Doré, qui est professeur en travail social ici même à l'Université Laval, qui va nous parler des enjeux et de la communauté LGBTQIA+. Donc, on va pouvoir parler de ces enjeux-là avec lui juste après cette pause musicale.
Savais-tu que l'amour, c'est un peu comme une chandelle? Si dès le premier jour, le feu est trop passionnel, y aura plus de cire dans le fond, à l'avenir pour les saisons, ou entre elle et moi, il y aura un froid. Car les histoires de cœur, c'est comme les soirs de poker. Tu sais, trash, mais plus t'as de cash, plus que t'as le droit à l'erreur. Mais toutes les plus malines se foutent que t'es all-in. Elles vont peut-être se coucher, mais ce sera pas avec toi. Et évidemment que c'est ainsi depuis longtemps. C'est pas ben bon, t'y comparaison. Des fois, crois-moi, je me dis que t'as raison. Parce que t'es pas ben bon dans les relations. Mais t'es fort dans les métaphores. Ah, 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 Savais-tu que l'amitié s'est rendu comme le café? Fais quoi de shot la quantité, sinon tu pourras plus coucher. J'ai toujours dit que mon ami était pareil comme le soleil, sauf qu'il est plutôt chaud lui. Quand sa journée est finie, il paraît que l'amour il a encore joué un tour. Maudit que c'est con, les comparaisons. Mais comparé aux autres, c'est pas de sa faute, il est pas bon. Non, c'est pas ben bon dans les relations. On est poète, la vie est loin d'être parfaite. Nous, on écrit des chansons, puis on oublie qu'on n'est pas ben bon dans les relations. Mais ta force, c'est les métaphores.
des nouveautés faites au Québec. Ici, on en a des tonnes de copies. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, salut, ça va?
Ben oui. Puis, que s'est fait en fin de semaine?
Bon, pas grand-chose. Je me suis reposé.
Ah, c'est plate.
Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine.
Ah, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi sur Chiz 94.3.
Le mardi 3 novembre prochain, à partir de 19h, Chiz 94.3 te propose une soirée spéciale élection américaine. Pendant plus de 5 heures en direct, nos animateurs, accompagnés de spécialistes internationaux, analyseront les résultats de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden. C'est ce mardi 3 novembre dès 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Donc, on est de retour à Question de savoir, Marie-Ève Duchesne et Claude Junior-Charles, toujours en nombre avec vous. Claude Junior, on a un invité vraiment de marque avec nous. Peux-tu le présenter?
Donc, merci Marie et bonjour professeur Doré. Et merci donc d'avoir accepté d'aujourd'hui d'être avec nous donc, pour parler donc, d'un sujet donc, qui est d'une extrême importance et, ou du moins c'est d'un ensemble d'enjeux qui touche toute la communauté étudiantine aussi. Donc, je vous remercie donc, au nom de l'Allié, donc l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous allez partager avec la communauté étudiantine votre expertise en la matière et nous tenons justement à souligner donc, que le thème qui sera abordé donc, est bien un jeu relatif à la communauté LGBTQ2IA+, et les abus sexuels dans le contexte de sans oui, c'est non. Merci encore d'être là avec nous, professeur. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Ève et donc pour enchaîner.
On en parlait hors d'onde. Vous êtes professeur titulaire à l'École de travail social et immunologie. Vous avez fait plusieurs livres dans votre carrière, mais entre autres, en 2018, il y en a un qui s'appelait le livre « Après le silence, réagir aux agressions sexuelles envers les personnes LGBTQ ». Pouvez-vous faire un bref résumé de quoi parlait ce livre et de ce que vous avez pu trouver avec votre équipe quand vous avez écrit
ce recueil-là? L'enquête est née en 2018, mais le livre est paru en 2019.
Ah, 2019, c'est vrai!
l'année d'après. Alors, écoutez, c'est ma dernière recherche. Moi, je suis en processus de retraite. Je serai dans la retraite dans quelques mois. Et puis, c'est une commande que j'ai eue, en fait, du secrétariat à la condition féminine, qui me disait, regardez, on n'a pas de recherche québécoise là-dessus. Ça serait important de le faire. Alors, nous, on a interviewé 40 victimes LGBT et 41 centres d'aide aux victimes, mais centres d'aide aux victimes en général. On voulait savoir deux choses. Quel est le vécu des victimes LGBT. Là, je ne dis pas plus parce qu'on s'est limité à LGBT, vu qu'on avait 40 répondants. On a essayé d'avoir LGBT représenté parce qu'on n'avait pas 400 répondants et répondantes. Et on voulait des entrevues de fond, des entrevues qui ont duré entre 1 heure et 2 heures. Donc, c'était assez limité pour ça qu'on ne pouvait pas avoir des centaines et des milliers de personnes. Et d'autre part, on voulait savoir qu'est-ce que les organismes d'aide faisaient ou pas, parce qu'on va voir tantôt sans doute que si on est LGBT au Québec, là, peut-être que si on demande l'aide dans les organismes, c'est pas sûr qu'on est toujours reçu avec des services au bout. C'est pas que les gens ont des préjugés, c'est pas que les gens se lèvent le matin en disant « j'aiderai pas les personnes LGBT », mais ça se peut que les gens disent « ben nous, non, on n'aide pas, on n'a pas cette clientèle-là, on n'est pas formé, on n'est pas compétent, on sait pas quoi faire. Rappelez-nous dans 1 an ou 2 ». Mais vous savez, là, si vous avez un traumatisme suite à un viol, là, vous n'allez pas attendre 1 an ou 2 que l'organisme s'organise pour vous donner de l'aide. Vous savez, moi, si j'ai un traumatisme crânien, sortant de chez nous, je me fais frapper par une auto. À l'hôpital, on ne me demandera pas mon orientation sexuelle, mon sexe et mon genre. C'est sûr qu'on va me soigner. Au Québec, il n'y a pas de discrimination pour les traumatismes crâniens. On soigne tout le monde. Mais pour les traumatismes sexuels, j'ai des très mauvaises nouvelles pour vous. On va vous demander quelle est votre orientation sexuelle, votre sexe et votre genre. Et ça se peut qu'on ne vous donne pas de service. Pas parce qu'on a des préjugés et qu'on veut vous faire du mal, mais parce qu'on va vous dire on ne sait pas quoi faire, on n'a pas la compétence, on n'est pas préparé à ça, on n'a jamais entendu ça. Si vous habitez en région, c'est pire encore. Les gens vont vous dire, ben écoutez, en région, on n'a pas cette... Il n'y a pas d'LGBT dans notre région. Dans même pas de région. Il y a des gens qui nous ont dit, dans notre région, ça n'existe pas les LGBT. C'est juste dans les grandes villes. Saviez-vous ça, vous? En tout cas, nous, on l'a appris parce qu'on ne se doutait pas de ça et on pense que c'est pas vrai, là. Il y a des personnes LGBT. Et on sait, par ailleurs, on savait déjà par rapport à beaucoup d'enquêtes à travers le monde, que les personnes LGBT sont 3 fois plus à risque de façon générale d'être victimes d'agressions sexuelles. Et chez les personnes trans, et ça, j'aimerais qu'on en parle beaucoup, c'est 3 fois plus, c'est 9 fois plus de risque d'être agressé sexuellement pour les personnes trans, non-binaires. On dit trans, mais ça peut être trans, non-binaire, etc. Donc, c'est assez terrible. Et c'est pour ça qu'il fallait faire une enquête là-dessus. Écoutez, les témoignages, les 40 témoignages qu'on a eus, là, nous ont profondément bouleversés. C'était des histoires terribles à entendre, mais où on a appris qu'il faut faire des choses parce qu'actuellement, vous avez la moitié de la population LGBT qui n'a pas de soins, qui n'a rien, et qui dit « j'ai été violé, j'ai besoin d'aide », on peut dire ça à l'hôpital, ça se peut qu'on dise ça par des travailleurs sociaux, des psychologues, etc. Vous savez, au Québec, on a une charte depuis 1977 qui protège la discrimination sur l'orientation sexuelle, ce à quoi s'est ajouté le genre. Et malgré ça, ben il y a la discrimination qui n'est pas volontaire, là. Les gens se lèvent pas le matin en disant « on veut discriminer », là. Mais c'est le résultat de ne pas avoir développé de services, de compétences, tout ça, mais on en reparle plus dans le détail, j'imagine.
C'est quand même intéressant de savoir qu'avec cette recherche-là, le livre qui en a découlé, ça a dû être quand même quelque chose de très marquant pour vous et votre équipe aussi, de connaître ces réalités-là. Peut-être que votre équipe ne connaissait pas. Puis je vous remercie de cette réponse.
Notre équipe était constituée de personnes LGBT déjà parce qu'on voulait avoir accès aux gens, que les gens fassent confiance. Ça, c'est bien important. Évidemment, si vous interviewez des personnes trans, c'est important que les gens sentent que... Alors, notre équipe était très représentative de la diversité sexuelle et de genre. Alors, les gens se sont confiés en toute confiance et ça, on les remerciera jamais trop parce que...
Non, exactement.
Ça, c'est important. Mais les jeunes nous ont confié aussi que, en s'adressant au service d'aide aux victimes, là, il y avait des réponses. Je vous donne des exemples de réponses. Une femme qui vit de la violence avec sa conjointe dit « Ma conjointe m'a frappée, battue, etc. » Et on lui dit « Non, 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 madame, vous êtes deux femmes. C'est impossible que vous ayez vécu la violence. Vous êtes deux femmes. Vous êtes deux victimes. » Elle dit « Non, regardez, là, j'ai un œil au beurre noir, je suis blessée. Non, madame, c'est impossible. » Alors, oui, la violence peut exister entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes. La violence, là, hélas, ça peut exister dans tous les types de couples. Alors, il y a des femmes lesbiennes ou bisexuelles dont la plainte a été refusée parce que l'agresseur était une femme. Une personne trans s'adresse, ça va dans une maison d'hébergement parce qu'elle a été violée. Puis on lui dit, puis peut-être par son conjoint ou sa conjointe aussi, et on lui dit « Madame, on est désolé, mais on n'a pas de chambre pour les personnes trans. » Et les femmes ici seraient mal à l'aise d'avoir une personne trans dans la même chambre. Alors, c'est dommage, on ne peut pas rien faire pour vous. Mais vous comprenez que la personne est en traumatisme. Elle a besoin d'être hébergée, elle a besoin d'être aidée. Puis on dit, bien, c'est bien dommage, allez à Montréal. Sauf que si vous êtes dans le fin fond de je ne sais pas quelle région du Québec, je ne veux pas donner des régions, il ne faut pas se stigmatiser, et vous cherchez de l'aide, là, dire de faire 800 km pour avoir de l'aide, trouvez-vous que c'est raisonnable? Non, ça ne l'est pas. Et je ne parle pas des hommes gays. Les hommes gays, même dans le village gay à Montréal, on avait des personnes qui nous ont répondu de toutes les régions. Les gars disent, si on avait des gars gays costauds, là, qui ont du bug des bending, qui disaient, quand j'ai dit à mes amis que j'avais été violé, les gens sont partis avec. Parce que les gens pensent, un, que les hommes peuvent pas être violés, puis deux, que ça va avec le poids. C'est pas au poids l'agression sexuelle, ça n'a rien à voir avec le poids, la taille, la grandeur, ça n'a rien à voir, c'est un abus de pouvoir. Donc, ça se peut que la personne est droguée, fait boire la victime, puis abusée de son pouvoir par la suite. Ça peut arriver à des hommes, à des femmes de tout genre, tout sexe, toute orientation sexuelle, quel que soit le poids. Vous savez, il y a même des femmes lesbiennes qui nous ont dit, ou bisexuelles qui nous ont dit, je blague pas, là, et je cite, ce sont dit par des professionnels en relation d'aide dédiée aux victimes. C'est pas possible, t'as été violée, t'es pas assez belle. Il y a des femmes, il y a 3 femmes qui nous ont raconté ça. Il y a rien qu'on n'a pas entendu. Moi, j'en ai fait des recherches sur les agressions, mais pas sûr. Je vais vous dire, c'est une de celles que j'ai entendues les pires choses. Les victimes sont pas crues, on se moque des victimes, on les victimise une deuxième fois en refusant de les aider, en mettant en doute leurs paroles. Une femme peut pas avoir été agressée par un autre homme. Un homme ne peut pas avoir été agressé par une autre femme. Et puis, écoutez, les questions qu'on pose, là, vous savez, les vieilles questions, là, comment t'es habillé, t'es-tu trop déshabillé, là? Même les gars se font dire que leur jupe était trop courte. D'ailleurs, on a une portion de chapitre qui s'appelle comme ça. Évidemment, les gars portent pas de jupe pour la plupart. Mais on leur a dit, oui, mais comment t'es habillé? Comprenez, là, même si la victime, qu'elle soit bien n'importe comment, ça n'a absolument rien à voir. Vous savez, c'est dans les cas naturistes qu'il y a le moins de viols. Ça n'a rien à voir que la victime soit habillée ou déshabillée, que ce soit un homme ou une femme, une personne non-binaire, tout ça. Mais ça nous a bouleversé tout ce qu'on entend. Bouleversé.
Ouais, donc, professeur Doré, donc, à bien vous entendre en parler, donc, il s'agit là d'un sujet extrêmement important, extrêmement sensible et extrêmement complexe. Dans votre intervention, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est surtout quand vous avez parlé de traumatisme crânien, traumatisme sexuel, qui ne sont pas traités de la même façon au Québec. Pour un traumatisme crânien, donc, tout le monde peut recevoir des soins. Par contre, quand c'est un traumatisme sexuel, là, il y a des questions qui se posent. Donc, c'est tout un ensemble d'enjeux. Vous avez, dans votre intervention aussi, souligné plusieurs enjeux qui pourraient toucher plus d'un dans la communauté et spécifiquement, donc, et cette communauté-là, à savoir la communauté LGBTQ. Donc, maintenant, j'aurais une question assez spécifique. Quels sont les enjeux propres à cette communauté? Et y en a-t-il des spécifiques aux personnes trans?
Oui, plusieurs choses. D'abord, beaucoup de personnes trans nous ont dit on préférait être aidés par des organismes qui sont déjà dédiés aux personnes trans. Parce qu'on n'a pas trop confiance, on ne sait pas trop sur qui. Vous savez, des gens qui demandaient de l'aide suite à des viols, ils sont fait dire oui, mais non, le vrai motif de consultation, c'est comprendre pourquoi tu es devenu trans. Or, le motif de consultation n'était jamais pourquoi les gens étaient très bien dans. Vous savez, la majorité des personnes trans sont bien dans leur peau, là, une fois que la transition est faite ou pendant que c'est fait. C'est pas ça le motif de consultation. Et les gens, les femmes lesbiennes, les hommes homosexuels, ça veut dire ça. Ah oui, tu as été violée, c'est pour ça que tu es de. Alors, un des grands enjeux, c'est que les intervenants en matière de soutien aux victimes n'ont pas toujours les connaissances adéquates là, pour aider les victimes LGBT. Donc, une des recommandations qu'on fait d'ailleurs, Pierre, parce que ça continue cette affaire-là. Vous savez, les chercheurs, quand on finit une recherche là, qu'on a appris, on continue de vouloir que ça s'applique. Alors, c'est que, d'une part, les services aux victimes soient au courant des réalités LGBT. Actuellement, on pourrait dire, grosso modo, selon les réponses des organismes, les 42 organismes qu'on a interviewés, la moitié des organismes n'ont pas les connaissances. La moitié. Alors, il faut former ces gens-là. D'autre part, peut-être qu'il faut former aussi les organismes LGBT, en particulier les organismes trans, parce que les gens se disent, je me sentirais plus à l'aise. En particulier les femmes, les personnes trans, on dit, je me sentirais plus à l'aise de demander de l'aide à un organisme de femmes, un organisme trans. Et ça, il faudrait faire de la formation. Alors, ça aussi, c'est un autre enjeu. Alors, il faut que les gens se parlent. Il y a des gens, vous savez, actuellement, au Québec, on est un des endroits au monde qui a le plus de groupes LGBT. Il y en a encore pas assez, mais il y en a quand même plus qu'ailleurs. Et puis, en plus, bon, il y a du subventionnement au Québec, ce qu'il n'y a pas dans bien des endroits. Mais il faudrait que les gens soient conscientisés sur les agressions et le harcèlement sexuel de façon très générale. Mais d'autre part, il faudrait que les organismes aussi LGBT soient aussi formés d'une certaine façon. Et je sais qu'il y a des projets actuellement, par exemple, chez Interlink, il y a des projets dans ce sens-là. Notre rapport est sorti il y a déjà deux ans, là, au début de l'année 2021. Et je sais qu'il y a beaucoup été lu et beaucoup de gens disent oui, il faut faire ça. Donc, il y a quelque chose en cours. Mais le gros enjeu, c'est ça. Les organismes LGBT, trans en particulier, s'ouvrent aux réalités de l'agression. Je vous dis pas que c'est pas fait, là. C'est fait, mais il faut qu'il y ait une formation, une sensibilisation accrue. Et d'autre part, que toute victime à travers le Québec, que vous habitiez à Chibougamau, à Gaspé, à Québec ou à Montréal, vous êtes victime d'une agression sexuelle, vous êtes aidé. Puis un enjeu particulier, effectivement, pour les personnes trans, c'est qu'actuellement, il n'y a pas très peu d'hébergement pour les personnes trans. Parce que, je vais vous donner un exemple, les maisons de femmes nous disent, nous, on ne veut pas discriminer les personnes trans, mais on pense que ça pourrait déranger quelques femmes d'être dans la même chambre, dans la même bâtisse qu'une personne trans. Oui, mais pensez-vous que les préjugés des autres excusent les nôtres, selon vous? Est-ce que je peux invoquer les préjugés de mon voisin ou de ma clientèle pour dire, moi, j'ai des préjugés? Non. On ne peut pas invoquer les préjugés. Alors, préjugés de la clientèle, on travaillera sur les préjugés de la clientèle. Mais il faut que tout le monde soit hébergé. Peut-être pas dans la même chambre. Peut-être qu'il faut des chambres séparées. Peut-être qu'il faut que les gens en région fassent des liens avec d'autres régions parce que la clientèle elle est peut-être moindre dans certaines régions éloignées. Mais il faut que tout le monde qui a vécu des agressions sexuelles au Québec puisse avoir et ait de l'aide. Et ça, c'est très important. On a vu qu'il y avait une bonne volonté de la part des organismes de soutien aux victimes. Là n'est pas la question. Mais le fait est que dans les faits, on dit oui, mais vous êtes lesbienne, vous êtes un gars. Ça aussi, au Québec, là, dans 40 % des régions du Québec, vous n'avez pas d'aide, vous êtes un gars. La situation la pire est celle des personnes trans. C'est au moins la moitié. Mais il faut que les personnes trans, les gars, quel que soit le genre, l'orientation sexuelle, les gens aient de l'aide. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les... Puis les gens nous disent, oui, mais dans les groupes de thérapie, je ne peux pas mettre des hommes, des femmes, des personnes trans ensemble. Personne ne demande ça. Je reviens à mon traumatisme crânien. Si je m'en... À l'hôpital, là, le médecin ne verra pas 30 patients en même temps que moi. Il va me voir tout seul. Alors, c'est la même affaire pour les traumatismes sexuels. On peut voir les gens tout seul. On les aide chacun et chacune avec les services pertinents. Nous, on ne demande pas que les services soient mixtes. Personne ne demande ça, là. Que les femmes veulent être entre femmes, les victimes d'agressions sexuelles, c'est très compréhensible, c'est très correct, là. Personne ne conteste ça. D'ailleurs, même les gars et les personnes trans vous disent on aimerait être dans des groupes entre nous. C'est très bien, mais qu'on bâtisse ces groupes-là, qu'on fasse ces choses-là. Alors, oui, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis, surtout.
OK, donc, merci pour cette brillante réponse, c'est professeur Doré. Je note que vous avez souligné à la cour forte que l'aide par rapport à ces personnes est d'une extrême importance, ou du moins est indispensable. Vous avez aussi mentionné donc, dans votre intervention que dans cette communauté, donc, c'est beaucoup plus à l'aise de demander de l'aide à des organismes LGBT. Mais en même temps, vous avez dit que les intervenants et les intervenantes n'ont pas toujours les connaissances adéquates pour répondre aux besoins de ces victimes-là. Donc, alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a un travail qui a été fait pour remédier à cette situation? Est-ce qu'il y a une étude par rapport à tout ça pour remédier à cette situation?
Oui, ben on est en train de le faire. Il y a ma recherche, je sais que le centre l'organisme qui regroupe tous les regroupements LGBT faisait une recherche similaire à la nôtre en même temps, qui a à peu près donné les mêmes conclusions. Vous savez, moi, je fais partie d'un groupe de travail qui va rendre son rapport final d'ici les fêtes, là. Le groupe d'experts nommé par la ministre Sonia Lebel à l'époque, bon, ça a changé de ministère maintenant, ça relève de la condition féminine, mais il y aura un rapport là, sur le soutien aux victimes et c'est certain qu'il y aura des portions du rapport, là, je n'ai pas le droit d'en dire plus parce qu'on est en train de le rédiger, qui parleront des choses à faire spécifiquement pour les personnes LGBT. Je sais aussi qu'Interling, qui dépend de la Fondation Émergence à Montréal, il y a un groupe de travail là-dessus pour faire une espèce de guide pour les organismes LGBT. Si vous avez éventuellement des formations en ligne, là, on parle de plus en plus en ligne avec ce qu'on vit actuellement, mais pour que les organismes LGBT s'ouvrent à cette réalité-là, ils seront plus en mesure à tout le moins d'accueillir les victimes et de bien les orienter. Mais pour bien les orienter, il faudra s'assurer, nous, et c'est là que je pense que l'État québécois et les ministères en question, à qui on va remettre un rapport là, d'ici deux mois, pourront intervenir, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à travers le Québec, quel que soit notre sexe, notre genre, notre orientation sexuelle, si on a vécu une agression, du harcèlement sexuel, un viol, quel que soit le mot que vous utilisez, on doit être certain que tout le monde sera aidé. Et ça, ne vous en faites pas, c'est ça dans notre rapport. Alors, il y a des choses, oui, en développement, des choses en relation. Et ça montre aussi qu'une recherche, là, c'est un tremplin. Vous savez, moi, ça fait longtemps, ça fait 40 ans, je fais ce métier-là passé, mais une recherche, là, c'est un tremplin. On fait une recherche pour comprendre une réalité et pour voir comment ça pourrait servir pour la changer. Et les recherches qui donnent rien sont inutiles. Une recherche, hein, vous êtes des études avancées, vous le savez, une recherche est faite pour changer la société. Moi, je pense, il y en a qui me reprochent en disant que je fais de la recherche militante. Vous savez quoi? Je suis bien content de faire de la recherche militante et je suis bien content qu'on me le reproche parce que c'est important de faire de la recherche qui change la vie des personnes opprimées, des personnes qui ont vécu des choses. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Ça a été les LGBT, bon, les personnes de la prostitution, etc. C'est très important de faire ça. Mais il faut se soucier après. Je fais ça avec mes étudiants aussi, mes étudiantes qui sont aux études avancées. Leur dire, une fois que ma recherche est faite, qu'est-ce que vous pouvez changer? Et c'est pour ça que depuis que la recherche est terminée, depuis plus ou moins 2 ans, en particulier moi dans l'équipe, là, mais d'autres aussi dans mon équipe, on a été très, très actifs pour contacter des ministères, des organismes pour dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on sait ça, comment faire évoluer la situation. Et je pense qu'il y aura des choses, enfin j'espère qu'il y aura des choses à faire, mais vous savez, nous, les chercheurs, on peut recommander, c'est pas nous qui le ferons sur le terrain, mais on peut recommander avec des choses très, très concrètes et beaucoup d'instances. Et je pense que beaucoup de gens sont révoltés de voir que toutes les victimes ne sont pas traitées de la même façon au Québec. Ça n'a pas de sens et ça n'a pas lieu d'être. La charte est là. Je pense que toutes les personnes ont droit au meilleur service possible.
Ma dernière question, professeur Doré, vous en avez un peu parlé. Est-ce que depuis le lancement du livre en 2019, il y a eu des changements dans les mentalités ou dans les ressources qui ont été faites? Est-ce que, par exemple, on parle qu'on est plus
là.
Ouvert?
Moi, je me suis promené beaucoup dans le temps qu'on pouvait se promener là avec la COVID. Écoutez, j'ai eu 9 conférences d'annulées, là, et la plupart étaient là-dessus. Tu sais, depuis le mois de mars, là, il y a beaucoup de choses annulées. Là. Mais il demeure que le rapport était sorti fin février, je me souviens. Donc, pendant l'année qui a suivi, là, 2019, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de gens dans les organismes LGBT, dans les militaires, où les gens prennent des décisions. Moi, je suis relativement confiant. Je pense que la chose est prise au sérieux. Je pense que les organismes LGBT prennent ça au sérieux et relaient vous savez, quand on est chercheur, on est des porte-voix, hein, des gens qu'on interviewe, on leur donne la voix, puis ensuite, il faut se préoccuper qu'on parle le plus fort possible pour les faire entendre. Moi, je demande, vous savez, les gens qui vous racontent un viol, là, c'est terrible. Moi, on leur demande toujours, mais pourquoi vous n'avez... On dit, nous, on ne nous a jamais cru. Mais vous, peut-être qu'on va vous prendre. Vous comprenez qu'on a un mandat, une mission extraordinairement importante, parce que les gens qui nous ont raconté des choses qui étaient terribles, souvent en pleurant, puis les gens, là, veulent pas souffrir, mais nous dire, regardez, c'est important, mon vécu. Je veux que ça serve. Je veux que ça serve à faire évoluer les choses. Et pour ça que c'est le mandat des chercheurs et chercheuses. Nous, c'est notre mandat, une fois que la recherche est faite, de dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on est là actuellement. Et c'est pour ça que ça m'a fait très plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui. Parce que, de fait, il faut en parler. Il faut mettre ça sur la place publique. Il faut dire aux gens, revendiquez des services. N'ayez pas peur. Il faut que les personnes LGBT soient traitées à égalité, à parité, partout dans le Québec, dans toutes les problématiques et les problèmes que vous pouvez vivre dans la vie. Et ça, à mon avis, c'est déterminant.
OK, merci. Une question assez spécifique, professeur Doré. Donc, vous avez répondu. Alors, vous avez tellement donné d'informations importantes que je ne voudrais pas, ou du moins, que nous ne voudrions pas que des informations donc, que vous avez données donc, passent incognito, ou du moins, c'est inaperçu donc, aux yeux de la communauté. Donc, voilà pourquoi je vais essayer de vous poser une question assez concrète. Donc, de quelle façon devrait-on agir en lien avec les personnes issues de la diversité sexuelle, en lien avec les violences à caractère sexuel?
D'abord, les écouter et les croire. Les gens pensent, contrairement à la réalité, que ça ne peut pas arriver si t'es un homme, que ça ne peut pas arriver si t'es une femme, en particulier si t'es une autre femme, et que ça ne peut pas arriver si t'es une personne trans, alors que les gens sont beaucoup plus vulnérables que toute autre clientèle. Alors, donc, il faut s'ouvrir. Autant du côté des organismes LGBT qui croient que c'est périlleux, c'est exceptionnel, mais c'est pas exceptionnel. Quand on dit de 3 à 9 fois plus, là, dans les communautés LGBT, c'est beaucoup de monde. Il faut être prêt à les accueillir. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation du côté des organismes publics. Là, il paraît. Vous savez, il y a une soixantaine de que ça maintenant, je pense, d'organismes au Québec là, subventionnés pour aider les victimes. Il faut que toutes ces places-là, pas seulement la moitié comme actuellement, il faut que toutes soient ouvertes aux réalités de la diversité sexuelle des gens. Ça exige une chose, et je suis content que vous permettez de le dire, ça exige une collaboration entre les organismes, d'une part LGBTQ+, comme on dit maintenant, et d'autre part, entre les organismes d'aide aux victimes, parce qu'ils ont à apprendre. Les organismes d'aide aux victimes vont apprendre comment aider les victimes LGBT, donc qui ont besoin d'être à l'écoute des organismes LGBT qui, dans bien des cas, sont là depuis des décennies. Là. Ils connaissent la réalité LGBT. Donc, il y a un partage de connaissances. Le soutien aux victimes doit écouter les organismes LGBT, les organismes LGBT apprendre aussi du soutien aux victimes. Et c'est la bonne nouvelle de notre enquête, c'est qu'il y a à peu près le tiers des organismes qui nous ont dit, ben nous autres, on ne connaît pas grand-chose, mais de plus en plus, on collabore avec les organismes LGBT parce qu'on réalise qu'on a beaucoup à apprendre. Vous voyez, ça c'est le côté espoir de la chose. Et je sais qu'actuellement, parce que je suis le dossier de très proche, là, je veux m'assurer que ça avance. Okay. Il faudra que ça avance dans les mois à venir, assurément.
OK, donc on aurait aimé passer beaucoup plus de temps pour en parler davantage, parce que ce que vous dites, professeur, donc profitera à la postérité. Donc, toute bonne chose a une fin et je vous remercie beaucoup, professeur, donc, d'avoir accepté de partager avec nous et avec la communauté étudiante votre expertise et vos connaissances
et en
la matière.
Si on veut en savoir plus, il y a un petit livre qui est publié au PUL auprès de l'Université Laval, « Après le silence, aider les personnes LGBT ayant été agressées sexuellement ». Alors, c'est un petit livre qui ne coûte pas très cher et je pense que c'est notre enquête qui donne la parole aux gens. Il y a des gros excès d'entrevues et je pense que c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire. Ben, merci à vous, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être là.
D'accord, pas de problème. Merci en tout cas à la communauté. Donc, vous avez entendu, professeur Doré, donc il y a un livre, « Après le silence, réagir aux agressions sexuelles envers les personnes LGBT ». Donc, prière est de vous procurer de ce livre-là. Donc, comme ça, vous aurez de plus en plus d'informations à ce sujet. Donc, Marie-Ève, et je te passe la parole donc, pour enchaîner.
Merci beaucoup, professeur Doré, pour toutes ces informations-là. C'était vraiment très enrichissant. On s'en va en musique pour un autre petit bloc musical avant de poursuivre et de terminer avec les féministes en mouvement pour parler de ressources et de l'importance du consentement. Merci beaucoup!
Si tu portes du noir dans la vie, si tu sors le soir dans la nuit, si tu bois de l'eau chaude avec des fleurs dedans, si tu vois autre chose que la tête blasée des gens. Tu es sûrement une sorcière. 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 Si tu aimes les chats au creux de ton lit, si tu n'aimes pas trop qu'on te dise de sourire, si tu trouves ça beau la lune et le saphir.
Question de savoir, Marianne Stein ici pour l'animation de cette émission sur son oui, c'est non. Je suis rejointe par Cyrine Abdallah et Sarah Jane Vincent, co-coordinatrice des féministes en mouvement de l'Université Laval. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Donc, c'est ça, vous, qu'on va parler, ça va être des ressources sur le campus et en général, et aussi de l'importance du consentement. Puis je pense que je peux tout de suite aller dans le vif du sujet. Dans les derniers mois, il y a eu plusieurs vagues de dénonciations de violences à caractère sexuel qui ont fait les manchettes dans les médias. Ça serait quoi, selon vous, l'impact qu'elles ont sur le mouvement ou en général sur la prévention des violences à caractère sexuel?
On dirait pas qu'il y a eu des changements, de gros changements concrets dans le système politique et juridique, même s'il y a eu, après le mouvement MeToo, il y a eu, on sait que le gouvernement a accordé un certain budget pour notamment les organismes, pour aider les organismes financièrement, il y a eu un budget de 25 millions, je crois, à peu près. Donc ça, ça a été quand même une mesure concrète du gouvernement québécois. Mais à part ça, les changements, je pense qu'il y a eu plutôt des changements dans les, comment dire, dans les mentalités. Et comme une prise de conscience, en fait, collective. Et ben, les gens se sont juste rendus compte que le harcèlement, déjà, ça avait plusieurs formes. C'était pas que le harcèlement ou les violences sexuelles, c'était pas que un viol dans une ruelle sombre ou par un inconnu, que c'était beaucoup plus... ça peut être ton ami. Enfin, en tout cas, c'était bien plus diversifié. Et puis, voilà, ça fait prendre aussi conscience aux gens que ben, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de harcèlement et violences sexuelles. Et puis, même des femmes ou... Bon, je dis des femmes parce que c'est la majorité des victimes, mais la plupart des personnes victimes, en tout cas, se sont vraiment remises en question, puis se sont dit, ok, est-ce que je me suis fait harceler, parce que c'est tellement inconscient, on s'en rendait pas compte. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte aussi qu'elles avaient vécu des situations qui n'étaient pas normales. Et c'est ça. Puis même du côté des hommes, notamment. Ben, il y en a beaucoup qui se sont remis en question, qui se sont dit, ok, peut-être que je drague pas de la façon qu'il faudrait. Qui se sont remis en question aussi là-dessus. Donc, ça a vraiment permis une réflexion collective. Et ça, c'est un bon début, un bon premier pas.
De quelle façon un étudiant peut-il prévenir les vagues sur le harcèlement sexuel?
Oui, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire attention à la manière qu'on interprète cette question-là, parce que je trouve que ça peut laisser place au fait que ça serait aux victimes, en fait, de prévenir leurs propres agressions. Alors qu'on croit tout le contraire. En fait, c'est pas aux victimes de prévenir, c'est pas, par exemple, aux femmes de rentrer plus tôt, de s'habiller supposément correctement ou de, en fait, vérifier leur comportement, mais c'est vraiment aux agresseurs, en fait, que tout le poids revient. Oui, on croit que, par exemple, il faudrait avoir une meilleure éducation qui commence vraiment plus jeune, une sensibilisation définitivement accrue. Par contre, on croit que c'est pas nécessairement suffisant, surtout pour les gens, par exemple, de notre âge, qui ont déjà une certaine expérience de bâti, qui ont déjà une socialisation aussi de fait. Donc, on croit aussi que ça vient beaucoup par ce qu'on peut appeler là, les boys clubs, en fait, de se parler entre amis, que les alliés se regardent entre eux, par exemple, si on sort... une gang de gars ensemble, ben que si tu vois que ton ami commence à avoir des propos ou des actes inappropriés, ben de le confronter, d'y en parler, en fait. Vraiment, là, d'avoir une espèce de panel d'alliés vraiment diversifiés qui permet d'éviter là, des situations qui risqueraient de dégénérer, en fait.
Vraiment, de juste d'aller dans le... Comment dire? De pas victimiser la victime, parce qu'on l'a appris avec Michel Doré, entre autres. C'est déjà difficile de venir confronter les ressources, de venir confronter les organismes qui travaillent pour les victimes. Donc, il ne faut pas les victimiser davantage. Ça n'aidera pas la cause et ça n'aidera pas la prévention. La formation obligatoire pour la prévention des VAX parle aussi de consentement. De quelle façon devrait-on parler de consentement aux étudiants et étudiantes ou en général aux personnes générales?
Oui. En fait, ben, c'est vraiment un bon premier pas, là. On croit définitivement que c'est un premier pas, sauf que ça devrait être fait plus tôt. On ne devrait pas commencer là, à avoir des formations comme ça à l'université. Ça devrait être plus universel aussi, que ce soit pas juste dans les milieux, mettons, d'enseignement, mais que ce soit aussi au boulot. Je veux dire, on n'en entend jamais trop parler. Aussi, ça serait intéressant de rendre ça un peu plus, je vais dire, ludique, mais tout en conservant là, l'importance du propos, mais par exemple, de rendre le consentement un peu comme une sorte de turn-on aussi. Tu sais, on peut rendre ça bon, on peut rendre ça le fun, de se dire, mettons, de demander à la personne est-ce que t'aimes ça, mais aussi d'être comme, est-ce que t'aimerais ça si je te faisais ça, mais tu sais, de vraiment rendre ça inclus dans la sexualité, mais de manière positive plutôt que de voir ça comme une contrainte. Puis je pense qu'il y a toutes sortes là, de moyens aussi de démocratiser un peu l'accès au consentement. Par exemple, en mettant dans des émissions de télévision. Moi, je n'écoute pas Occupation double, mais on m'a dit qu'il y avait eu une formation là, pour les candidats et les candidates cette année. Ben, je trouve ça super parce que tu sais, il y a un peu monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça. Donc, ça donne accès aussi à ça aux personnes déjà âgées, déjà bien installées dans leur emploi, leur étude complétée et tout.
Rien, est-ce que tu peux ajouter quelque chose à ce que ta collègue a dit?
Ben non, je trouve qu'elle a dit pas mal de choses, c'est ça. Et vraiment l'éducation. Moi, je pense que c'est la clé. L'éducation, puis libérer la parole là-dessus, donc du consentement. Que ça devienne un réflexe chez les gens.
Que ça soit pas concentré dans les sphères métro, boulot, dodo, et à l'école, que ça soit plus démocratisé. Parce qu'il y a des... Ouais.
il y a eu des vidéos qui ont été faites dans le passé, par exemple, avec la tasse de thé, avec, je pense que c'était Charles Tissère qui faisait la voix ou quelque chose comme ça. Du moins, Charles Tissère en avait parlé pendant Tout le monde en parle, pour parler justement du consentement. Puis, c'est des choses comme ça que ça prendrait, selon vous, pour justement apprendre c'est quoi le consentement. Quelque chose de plus ludique, mais qui garde l'information super pertinente.
C'est ça. Ben, en fait, faudrait agir à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on agit dans le milieu de l'éducation, en proposant des formations, dans le milieu du travail, en proposant d'autres formations spécifiques à ce milieu-là. Puis, un peu pour tout le monde, ça peut être dans les émissions, comme elle a dit, AOD ou pas, parler, de ce genre de choses. Ça peut être via des vidéos YouTube auxquelles tout le monde a accès. Enfin, c'est ça. Il faut vraiment diversifier les plateformes pour toucher un maximum de personnes.
Excellent. Quelles seraient les ressources pour ceux et celles qui veulent en apprendre davantage sur les violences à caractère sexuel ou le consentement, justement?
Il y a plein sur les réseaux sociaux, il y a plein de comptes Instagram qui sont spécialisés. Ben, on pense notamment au Club Sexu, qui rendent ça vraiment accessible et fun. Puis après, ben, tu en as parlé tout à l'heure, la vidéo, par exemple, de tasse de thé, qui est facile d'accès. Puis, il y a des chaînes YouTube, après, plus spécialisées. Il y a la chaîne Violence Sexuelle Info, qui propose des vidéos thématiques sur le consentement pour expliquer un peu plus sérieusement, si je puis dire, ce que c'est. Voilà, ça, tout ça pour les informations. Puis si on veut plus tourner vers des ressources, il y a tout ce qui est centre de prévention de l'Université Laval. Il y a le CALAC, là, le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y a Viol Secours, après des choses plus... des ressources plutôt. Il y a Tel Jeune aussi pour les jeunes qui ont envie de parler. C'est ça, il y a la clinique juridique aussi, Juripop.
Merci beaucoup, mesdames, pour ce bref tour de vision sur les ressources, le consentement. Est-ce que... vous auriez d'autres choses à ajouter pour les étudiantes un peu parmi de la FEMUL? La FEMUL, qu'est-ce que vous avez comme activité pour les prochains mois, les prochaines semaines?
Oui, on a plusieurs belles activités qui s'en viennent. On va avoir une conférence là, sur l'écoféminisme à la fin novembre qui va avoir lieu avec une étudiante là, justement qui a fait la FEMUL par le passé. Aussi, on va avoir là, plusieurs activités, par exemple, des soirées visionnement de courts-métrages féministes, des petits quiz là, aussi sur Instagram là, à chaque semaine, un peu pour tester nos connaissances sur divers sujets.
Excellent. C'est vraiment vous aussi, vous êtes probablement comme nous à l'Allier, concernés par le COVID. Les activités ne peuvent se faire en présentiel. Il faut faire ça en virtuel dans certains cas. Merci beaucoup. C'était très intéressant et instructif. Puis d'avoir été. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette question de savoir sur la campagne sans oui, c'est non. Ça a vraiment été un plaisir, Claude, d'être avec toi pendant cette émission d'une heure. Cette émission-là sera disponible, bien entendu, en balade d'autres diffusions. Les événements de la semaine pour l'Allier, il y a entre autres notre Assemblée générale extraordinaire le 4 novembre prochain. On vous invite à être là 30 minutes d'avance à partir de 15h30, c'est ça, parce que l'AG commence à 16h. Donc, merci beaucoup, Claude, de ta participation à ces questions de savoir. Ça a été très enrichissant.
Ouais, donc, merci Marie. Donc, il faut juste souligner que c'est demain notre Assemblée générale.
Exactement.
Donc, merci Marie-Ève. Je vais essayer d'en profiter donc pour remercier donc tous les intervenants et toutes les intervenantes, à savoir Lydia Arsenault qui est intervenue donc sur la thématique sans oui c'est non, prévention et enjeux dans le contexte des violences à caractère sexuel. Le professeur Michel Doré, donc professeur en travail social, qui est intervenu aussi sur les enjeux relatifs à la communauté LGBTQ2IA+ et les abus sexuels dans le contexte de sans oui c'est non. Et enfin donc les féministes en mouvement de l'Université Laval, à savoir Sarah Jane Vincent et Cyrine Abdallah, qui sont intervenus sur l'importance du consentement et les ressources disponibles à l'Université Laval dans le contexte de « sans oui, c'est non ». Donc, merci encore une fois à toi et Marie-Ève donc, pour avoir co-animé donc, cette séance avec moi. Et ensuite, merci à toute la communauté donc, d'avoir suivi et je leur demande de suivre.